prier pour Paris, donc. Après les attaques du 13 novembre, ce slogan s'est répandu à grande vitesse, en particulier par les réseaux sociaux, mais généralement, partout dans le monde, sans exagérer. Pray for Paris, prier pour Paris. Un slogan relayé largement, parfois applaudi, parfois décrié, parfois relayé par des personnes qui n'ont pas tellement l'habitude de prier et pour qui c'était peut-être une façon un peu vague de dire « pensons à Paris et peut-être prions le bon Dieu pour cette ville ». Pour d'autres, une affirmation beaucoup plus précise, il faut prier pour Paris. Mais en tout cas, le monde entier a parlé pendant quelques temps et continue à le faire dans une certaine mesure. Le monde entier a parlé de prier pour Paris. Nous arrivons ce matin donc au deuxième de quatre messages qui seront donnés à chaque fois matin, au culte du matin comme au culte du soir, en lien donc avec notre ville de Paris. Et ce matin, on va rebondir sur ce slogan, « Prier pour Paris ». Et pour évoquer ce thème, on va examiner un texte très surprenant de l'Ancien Testament, où il est question également de prière pour une ville. Je vous invite à le lire, c'est à la page 20 des Bibles Noires pour ceux qui voudraient suivre dans les Bibles Noires, c'est Genèse chapitre 18, les versets 17 à 33. Genèse chapitre 18, les versets 17 à 33, page 20 donc dans les Bibles Noires. Je vous invite donc à suivre avec moi la lecture de ce texte. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville ? Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? » L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville ? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes ? L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes ? L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes ? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes ? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Je propose de découvrir au moyen de ce texte un encouragement pour nous, chrétiens vivant à Paris, à prier pour notre ville, pardon, en nous appuyant sur le caractère et les promesses de Dieu. À prier pour notre ville, donc, en nous appuyant à la fois sur le caractère et les promesses de Dieu. Je propose d'y réfléchir en trois temps. On va parler d'une relation privilégiée, de promesses certifiées et d'une prière déterminée. Une relation privilégiée, donc, tout d'abord. Ce texte nous présente Abraham, le personnage central de toute cette section de la Genèse. Et Abraham est un homme, cet homme à qui Dieu a adressé des promesses tout à fait étonnantes. Promesses d'une relation personnelle avec lui. promesse d'un territoire, promesse d'une descendance nombreuse, et par cette descendance, la promesse de faire du bien à tous les peuples et à toutes les nations de la terre. Donc au sein d'un monde rebelle et déchu, Dieu a appelé Abraham, et ensuite sa famille, mais Dieu a appelé Abraham à être en quelque sorte le père fondateur d'une nouvelle humanité en paix avec Dieu. Et au début de ce chapitre 18, Dieu vient de se manifester mystérieusement à Abraham. Ça se passe sous la forme de la venue de trois personnes. Et un dialogue va s'instaurer en fait entre Dieu et Abraham. Et le début de notre texte dévoile de manière saisissante la relation privilégiée que Dieu entretient avec Abraham. Et on va voir que Dieu va ni plus ni moins inclure Abraham dans sa réflexion, pardon, presque le consulter avant de mettre ses projets à exécution. Alors je sais que certains ici travaillent dans de grandes entreprises, Total, Michelin, Air Liquide et d'autres. Imaginez qu'un jour le grand patron, le numéro un ou la numéro un, vous convoque dans son bureau et demande votre avis sur une initiative qu'il ou elle n'a révélée à personne d'autre. Alors certains me diront, mais ça, Mathieu, ça m'arrive toutes les semaines. Mais peut-être pas tous. Et j'imagine que pour beaucoup, ce serait une expérience extraordinaire. Mais de manière bien plus saisissante encore, c'est ce qui se passe au début de notre texte. Verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est l'Éternel qui parle. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» C'est une question rhétorique. Non, il ne compte pas cacher à Abraham ce qu'il va faire. Pourquoi un tel privilège ? Pourquoi est-ce que Dieu s'apprête à dévoiler ses projets à Abraham ? Eh bien, précisément au nom des promesses qu'il lui a déjà faites et qui sont rappelées ici au verset 18. « Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Abraham donc n'a pas gagné ce privilège à la sueur de son front, mais Dieu l'a choisi pour lui accorder ce privilège. Dieu est venu le chercher pour en faire partie prenante de ses projets. Mais alors quel est ce projet que Dieu va révéler à Abraham ? Eh bien c'est au verset 20 qu'on l'apprend. Il s'agit du jugement qu'il semble projeter de faire venir sur la ville de Sodome et aussi celle de Gomorrhe. Mais il s'agira plus précisément dans ce texte de Sodome. On reviendra sur ce jugement. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a le sentiment, en lisant ce texte, que Dieu consulte Abraham non seulement pour l'inclure, pour l'honorer, mais aussi pour l'inviter à prier. On constate en effet que Dieu ne dévoile pas précisément ce qu'il compte faire à Sodome. Il dit simplement qu'il va descendre et voir ce qui s'y passe. C'est une façon de parler, bien sûr, un langage adapté à la compréhension humaine qu'on trouve souvent dans la Bible. Mais c'est comme si Dieu laissait entrouverte une porte pour qu'Abraham réagisse à ce qu'il vient de lui dire. Et Abraham va saisir l'occasion, par la foi, de s'exprimer pour présenter sa requête à Dieu. C'est remarquable d'ailleurs, parce que Abraham, lui, les promesses lui ont été faites, il aurait pu se dire, pour moi, de toute façon, ça ira. Mais non, il va choisir d'intercéder pour Sodome. Et on entrevoit ici ce que la Bible confirme à bien des endroits. La prière, ce n'est pas comme une bouteille qu'on jette à la mer avec un message et on se dit peut-être un jour une divinité inconnue pourra prendre connaissance de ce message et qui sait faire quelque chose. Non, la prière authentique a lieu dans le cadre d'une relation privilégiée et vivante que Dieu a choisi d'entretenir avec nous. Alors on pourrait réagir à ce texte en disant « Oui, mais ça c'est Abraham, c'est quand même pas n'importe qui ». Pour nous, le commun des mortels, ça ne se passe pas comme ça. Sauf que le Nouveau Testament affirme que tous ceux et celles qui répondent à l'appel de Jésus-Christ et qui placent leur confiance en lui sont héritiers des promesses faites à Abraham. Et on pourrait même dire, je crois qu'on peut dire, que le privilège qui nous est accordé est plus grand encore. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. « À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce n'est pas seulement à l'avenir, ça. Paul parle au passé. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Paul nous dit que par la foi en Jésus, dès aujourd'hui, nous avons été invités à nous asseoir avec Christ. Façon de parler encore. Nous asseoir avec lui dans les lieux célestes, c'est-à-dire en quelque sorte entrer dans le salon de Dieu, si on veut. Entrer dans la résidence même du Père. Et j'insiste là-dessus ce matin parce que si nous voulons prier pour Paris, entre autres, avec foi, avec audace, avec persévérance, eh bien nous devons croire que Dieu ne nous invite pas à le prier de loin, mais de très près. Nous sommes invités à saisir ce privilège qui est le nôtre dans le cadre de cette relation privilégiée avec lui. Et de même qu'Abraham, qui connaît Dieu, va intercéder pour des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas, eh bien nous sommes invités, nous qui avons ce privilège, cette grâce absolument imméritée de connaître Dieu en Jésus-Christ, nous sommes invités à intercéder pour tous ceux et celles autour de nous, ces millions de concitoyens qui ne connaissent pas Dieu. Or, cette relation avec nous, cette relation privilégiée, Dieu a choisi de la fonder sur des promesses. Deuxièmement, donc, des promesses certifiées. Dans le film Interstellar qui est sorti il y a un an à peu près, il y a une petite fille qui est un peu au centre du récit, qui au fil de l'histoire devient une femme, et elle attend pendant des années que son père tienne une promesse qu'il lui a faite quand elle était fillette. Et quand la promesse est enfin tenue après une très longue attente, je reste vague pour ceux qui n'auraient pas vu le film, eh bien elle dit qu'elle n'a jamais douté que cela se terminerait ainsi. Alors on lui demande, comment tu savais? Comment est-ce que tu as pu garder confiance tout ce temps? Et elle répond, parce que mon papa m'avait promis. Alors je mets au défi tout papa d'une petite fille de regarder ce film et de regarder cette scène sans avoir les larmes aux yeux. Moi j'y arrive pas, mais bon, je m'égare. Quand on reçoit une promesse et que celui ou celle qui a fait la promesse est digne de confiance, ça change tout. On va garder confiance, même quand la réalité semble à des années-lumière de ce qui nous a été promis. Or, dans notre texte, Dieu vient de rappeler au verset 19 sa promesse à Abraham, sa famille, Dieu viendra son peuple. Et un jour, par cette descendance, ce sont des nations entières qui connaîtront Dieu. Et Abraham, il a entendu cette promesse plusieurs fois, chapitre 12, chapitre 15, chapitre 17, elle est répétée à peu près dans les mêmes termes, et encore ici, au verset 18. Mais en attendant, la réalité est à mille lieues de cet avenir magnifique. La ville la plus proche, Sodome, est remplie de corruption, de débauche et d'idolâtrie. Or, le Dieu parfaitement juste ne peut pas rester indifférent face au mal. Il doit le juger. Et même si nous, en Occident, aujourd'hui, nous avons du mal avec cette idée du Dieu qui juge, en même temps, nous ressentons profondément en nous le besoin que le mal soit jugé. Et on l'a ressenti, par exemple, après les attentats de novembre. Lorsqu'on voit des policiers armés investir le Bataclan, on ne se dit pas « c'est mal » ou « c'est violent », on se dit « c'est juste ». Le mal doit être puni. Or, Dieu est le juge ultime, le garant du bien. Et c'est précisément parce qu'il nous a créés à son image que nous avons en nous cette profonde conviction, pas seulement les croyants d'ailleurs, cette profonde conviction qu'il y a du bien et du mal, quoi qu'on en dise, qu'il y a des choses qui méritent d'être louées et admirées, et il y a des choses qui doivent être combattues et punies. Ici, face à une ville dévoyée, où la violence et l'immoralité n'ont plus de limite, la suite du texte, du récit le montre bien, Dieu dit à Abraham qu'il ne peut pas rester indifférent. Lui, le Dieu saint, va devoir agir. Mais agir comment? Et face au mal, comment pourrait-il agir autrement que par la condamnation? Abraham, dans tout ce récit, ne remet jamais en question le droit de Dieu de juger les pécheurs. Mais il n'a pas oublié en même temps les promesses de Dieu. Il connaît aussi le caractère de Dieu. Verset 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, ça ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. » Abraham sait que Dieu est un Dieu qui aime faire du bien, qui aime faire grâce et sauver. Et c'est sur cette base, cette assurance des promesses de Dieu, que va commencer le dialogue incroyable, surréaliste on pourrait dire, des versets 22 et suivants, où Abraham va faire appel à la bonté et à la justice de Dieu et va tout faire pour négocier le salut de Sodome. Dieu a promis de faire du bien au monde et donc Abraham est persuadé que le jugement et la condamnation n'auront pas le dernier mot. Lorsque nous considérons la ville de Paris, nous aurions bien des raisons d'être profondément découragés. La grande majorité de nos concitoyens n'ont pas de relation personnelle avec Dieu, par Jésus-Christ, eux-mêmes le diraient, je pense. Beaucoup nient même l'existence de Dieu. On vend 1 million d'exemplaires avec approbation de l'État, collaboration de certains ministres, un hebdomadaire qui dit « Dieu, le coupable ». Il y aurait beaucoup de raisons d'être découragé. Et puis, par ailleurs, l'injustice, l'immoralité sont omniprésentes aussi à Paris, parfois subtilement, parfois très ouvertement. Mais nous savons que Dieu a promis qu'il restaurerait toutes choses et que la terre entière serait un jour remplie de sa gloire. Voici les promesses qui nous sont adressées, entre autres, Habacuc 2,14. « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Ésaïe 25,8. « Il engloutira la mort pour toujours. » 2 Pierre 3,13. « Nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et l'Apocalypse dévoile une vision dans laquelle, je cite, « une foule immense que personne ne pouvait compter, des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tiennent debout devant Dieu, comme Abraham dans notre récit d'ailleurs, et célèbrent ensemble la vie nouvelle qui leur a été accordée par Jésus-Christ. » Apocalypse 7, versets 9 et 10. On apprend donc que Dieu a des projets pour toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue. Il a des projets et des promesses pour Paris et les Parisiens. Et pas seulement, bien sûr. Or, qu'est-ce qui certifie pour nous ces promesses? Qu'est-ce qui nous permet de ne pas douter de ces bons projets de Dieu? Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur la croix, quand Jésus a subi à notre place le jugement de Dieu contre nos péchés, comme on l'a déjà rappelé. Pour que Dieu n'ait plus jamais de projet de condamnation à notre égard, mais uniquement des projets de salut. Et c'est au nom de cette grâce, de ce pardon accompli, disponible pour tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, que nous savons que Dieu va restaurer le monde, va restaurer toute chose. Or, si nous sommes convaincus que Dieu a le profond désir, que Dieu a le projet de sauver de nombreux Parisiens, de se réconcilier avec eux en Jésus-Christ, eh bien nous allons prier, non pas parce que voilà, il le faut, ou en prononçant des paroles qu'on ne croit qu'à moitié, mais nous prierons parce que nous voulons voir l'histoire en marche, l'histoire de Dieu, celle qui restera quand toutes les autres histoires se seront terminées. Et parce que nous voulons de tout notre cœur qu'une foule immense de Parisiens se laisse emporter par cette histoire, se laisse dompter par l'amour et le pardon de Dieu. Mais ce sur quoi je voudrais attirer notre attention pour terminer, c'est la détermination et l'audace d'Abraham dans sa prière, une prière déterminée. Le sujet est grave et en même temps Abraham se comporte un peu comme un marchand de tapis. Alors c'est vrai, il met les formes. « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Verset 27. « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. » Il y a un côté presque humoristique dans ce dialogue, je pense que ça n'échappe pas au narrateur. Mais en même temps on voit qu'Abraham n'oublie pas qu'il s'adresse au Dieu Tout-Puissant. Mais la scène est saisissante. Abraham demande à Dieu, « Pour 50 justes dans la ville, est-ce que tu la préserveras ?» Réponse, « Oui. » Et Abraham, qui sait que les justes se font plus que rares à Sodome, revient à la charge. 45, 30, 20, 10. J'ai oublié 40. Même pour 10 justes. Et ce qui est bouleversant dans ce texte, c'est qu'à chaque fois, sans hésitation, la réponse du Seigneur est oui. On note même que le Seigneur ne dit pas « cette fois c'est fini, je ne descends pas plus bas ». C'est Abraham qui choisit de ne pas demander plus. Même pour 10 justes, Dieu préservera une ville entière. Ce dialogue révèle profondément le cœur du Dieu de la Bible. Il met de côté la mesure et la raison. Il veut sauver la ville, il est prêt à la sauver, même pour 10 justes. C'est le même Dieu qui nous est dépeint dans l'évangile de Luc comme ce père dont le fils l'a trahi, a réclamé sa part d'héritage et est parti se vautrer dans la débauche et la honte, puis revient à sa rencontre Et c'est le Père qui le devance et qui court à sa rencontre. C'est ce même Dieu qu'Abraham a rencontré, un Dieu à la grâce disproportionnée. Mais le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'injuste à Sodome. La prière d'Abraham était sincère, la réponse de Dieu aussi. Pour dix justes, la ville aurait été préservée. Mais il n'y avait pas de justes. Même Lot, le neveu d'Abraham, auquel Abraham pensait sans doute lorsqu'il parlait des justes, au chapitre suivant va proposer de livrer ses filles à des agresseurs, des prédateurs sexuels, pour qu'on le laisse tranquille. Heureusement, ça n'aura pas lieu. Mais Sodome sera bien détruite. C'est ce qui est terrible dans ce texte. Sodome sera bien détruite, chapitre 19. Lot et sa famille seront préservés, non pas parce qu'ils le méritaient, mais par la grâce de Dieu envers Abraham et les siens. Et on pourrait se dire, mais alors, est-ce que ça veut dire que nos prières pour Paris seraient vouées à l'échec? Parce qu'y a-t-il un seul juste à Paris? Nous compris? Et c'est ici que l'évangile fait toute la différence. Parce que ce jugement qui est tombé sur Sodome, et que d'une manière ou d'une autre nous aurions tous mérité, il est tombé une fois pour toutes sur l'unique juste, Jésus-Christ. Et si Dieu veut préserver au Paris, c'est au nom d'un seul juste, Jésus. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. La conséquence de cela, c'est que Dieu nous ouvre un boulevard pour prier. Parce que Dieu a envoyé un sauveur dans le monde et pour Paris aussi. Jésus-Christ, et il a décrété que tous les Parisiens qui se tourneraient vers lui seraient considérés justes à ses yeux, non pas par mérite de leur part, mais par association à Jésus-Christ et par le choix souverain de Dieu. L'apôtre Paul écrit dans sa seconde lettre aux Corinthiens que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. En Christ, Dieu dit toujours oui. Lorsque nous prions pour ceux qui exalte Christ et qui est en phase avec la mission qu'il a lui-même déclaré vouloir accomplir. Nous pourrons demander tout ce que nous voulons. Il dira oui. Le Dieu qui a répondu oui à chaque proposition d'Abraham en vue de sauver Sodome est celui qui répondra oui à chaque fois que nous lui demandons son aide pour répandre la bonne nouvelle de Jésus à Paris. Dans l'absolu, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu est tout-puissant, souverain, omniscient, mais il a choisi de nous impliquer dans ses projets et il nous invite à lui demander ce qu'il désire profondément nous donner. Est-ce que nous saurons faire preuve de la même audace qu'Abraham, la même opiniâtreté? Nous connaissons les promesses de Dieu, nous connaissons le caractère de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à demander encore et encore, toujours plus de ce que Dieu veut faire à Paris? Alors c'est vrai, nous ne savons pas exactement ce qu'il adviendra de cette ville de Paris. Mais ce que nous savons, c'est que la bonne nouvelle qui nous a été confiée transforme les vies et amène pour toujours la paix de Dieu à la place du jugement. Et si derrière ce slogan spontané « Priez pour Paris », il y avait une invitation personnelle de Dieu qui nous était adressée, en premier lieu à nous, chrétiens de Paris, n'est-il pas naturel que nous soyons les plus motivés et les premiers à prier? Se pourrait-il que Dieu s'adresse à nous, son peuple, en disant à propos de Paris ce qu'il a dit à Jérusalem il y a des siècles? Et on ne s'était pas concerté avec Stéphane. « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe, Ésaïe 43, 19. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Je crois vraiment que Dieu nous invite en 2016 à placer notre ville au centre de nos prières. Il y a à Paris des projets, des initiatives qui ont besoin de notre intercession, de nos prières, des projets pour de nouveaux lieux, de nouveaux cadres d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, projets d'implantation dans le 15e arrondissement avec Ryan et Erin Bennett, que beaucoup connaissent, projets d'implantation dans le quartier Saint-Lazare avec Étienne Koning et une équipe qu'il est en train de former, un autre dans le 20e arrondissement, Harry et Elisa Noël, et d'autres encore qu'on pourrait citer. Il y a des hommes, des femmes qui s'investissent de tout leur cœur, parfois à plein temps, souvent d'autres manières, par des moyens divers, pour que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur et Sauveur dans cette ville, et que son amour soit donné et vécu. Et puis, un bon point de départ, il y a ces réunions dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi ne pas commencer par là ? Quelle occasion idéale ? C'est servi sur un plateau, des rencontres pour prier pour Paris. Qu'en est-il de nous, à titre individuel et en tant qu'Église ? Est-ce que nous voulons être spectateurs de ce que Dieu va faire à Paris ? Ou est-ce que nous voulons être acteurs ? Prions pour Paris. Amen.